Mes frères bien-aimés, à la suite du discours sur le pain de vie, dans lequel notre Seigneur a décrit le mystère le plus fou de notre foi, celui de l'Eucharistie, où Dieu va au bout de l'amour et se fait nourriture pour l'homme, Jésus a connu sa plus grande déconvenue en tant que prédicateur. La grande majorité de ses disciples le quittent en affirmant que sa parole est trop rude. À tel point qu'il se retourne alors vers ses apôtres pour leur demander « Voulez-vous partir vous aussi ?» Heureusement, notre bon saint Pierre, qui a déjà la carrure d'un pape, rassure son maître en lui déclarant qu'il occupe une place unique et irremplaçable dans la vie des 12. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Remercions dès à présent Saint-Pierre pour avoir soulagé le cœur de notre Sauveur. Et à notre tour, soulageons-le de nouveau en lui disant, et vous pouvez répéter après moi en votre esprit, « Seigneur, à qui irai-je ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je crois et je sais que tu es le Fils de Dieu. » Et en effet, mes frères, les paroles du Christ sont réellement de la vie éternelle, car par ses propos, il nous éduque pour que nous marchions heureux sur cette terre et surtout pour que, lorsque notre passage aura touché à sa fin, nous trouvions les portes du paradis ouvertes. Et dans l'évangile de ce jour, c'est une phrase simple en apparence qui doit nous façonner. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Par là, notre maître nous rappelle une vérité évidente, mais que nous oublions trop souvent encore. Dans notre être, composé d'une âme et d'un corps, c'est l'âme qui est le principe de vie. Et notre expérience nous le prouve. Quand une jeune personne est dépressive, elle a beau avoir un corps en pleine santé, elle reste au lit toute la journée et ne trouve plus la force de rien faire. Et quand une personne âgée déborde de joie, même si son corps n'est plus très énergique, elle déplace encore des montagnes. Voyez, c'est l'âme qui donne le ton au corps et pas l'inverse. Il ne faut jamais que nous oublions cette hiérarchie. Attention, en tant qu'être humain, le corps et l'âme sont tout autant nécessaires, l'un que l'autre. Et leur dignité est tout aussi élevée pour l'un que pour l'autre. Mais tout de même, l'âme possède une certaine primauté. C'est ce que Jésus veut nous rappeler ce matin. D'autant que nous avons tendance à oublier la présence de ce principe spirituel. Notre corps, lui, nous ne pouvons pas le manquer. Tous les matins, en nous levant, il nous rappelle qu'il existe. Et au cours de nos journées, il nous fait souvent ressentir son poids et ses limites. Mais en ce qui concerne notre âme, les choses sont différentes. Puisqu'elle n'est pas à proprement parler palpable, et que nous sommes des êtres sensibles, nous vivons facilement sans penser à elle. Aussi, à la suite de cette parole du Christ, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien, il faut que nous fassions un profond examen de conscience. Quand nous agissons, est-ce que tout notre être est investi ou est-ce que notre âme est mise de côté? Cette question est fondamentale car elle conditionne notre bonheur. Vous connaissez peut-être le poète allemand Rainer Maria Rilke. Eh bien, voici le critère qu'il donnait pour différencier ce qui est bon de ce qui est mauvais. Sont impurs les sentiments qui ne s'emparent que d'un seul aspect de votre être et ainsi vous déchirent. Sont purs les sentiments qui vous saisissent entièrement et vous élèvent. Ce que veut nous faire comprendre le poète allemand, c'est que tout ce qui nous divise est immoral et va à l'encontre de notre bien-être. Permettez que je prenne deux petites illustrations. Quand vous épluchez des carottes ou des patates, si vous pensez à autre chose, imaginons que vous pensez avec fureur à votre femme ou à votre mari qui vient de vous humilier et avec qui vous vous êtes engueulé. Eh bien, vous allez vous couper le doigt. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout votre être ne vit pas au même rythme, parce que tout votre être n'est pas présent à l'épluchage des légumes. Vous avez d'un côté votre corps, qui veut éplucher tranquillement les légumes, et de l'autre, votre âme, qui turbine à 200 à l'heure pour se venger de votre femme ou de votre mari. Au final, vous perdez encore plus de temps, car il faut aller désinfecter la plaie et mettre un pansement. Tout cela parce que notre être est désaccordé. Mais prenons un cas plus dramatique, celui de votre travail. Si vous le sélectionnez seulement parce qu'il vous offre un revenu et des avantages intéressants, et que vous mettez ainsi de côté tous les autres désirs que vous éprouvez, une ambiance agréable avec les collègues, un contact régulier avec des êtres humains, des horaires qui se marient avec votre vie familiale, tôt ou tard, vous n'allez plus en pouvoir, parce que vous aurez satisfait votre besoin financier, ce qui est légitime, mais vous aurez négligé bien d'autres nécessités de votre humanité, et notamment votre cœur, qui a besoin de se donner à des êtres concrets, sous peine de mourir. Bien évidemment, j'ai conscience, tout en vous disant cela, qu'il est de nos jours de plus en plus difficile de trouver un emploi et qu'il faut souvent prendre ce qui nous est proposé pour arriver à joindre les deux bouts. Je le concède, il n'y a parfois pas d'autre choix. Mais cela n'enlève pas le fait que ce poste ne vous comblera malheureusement pas. Mes frères, il faut que nous essayions d'investir au maximum dans ce que nous faisons les différents aspects de notre personnalité. Par exemple, quand vous préparez à manger, certes, cela est avant tout pour subvenir aux besoins énergétiques de votre corps. Mais n'oubliez pas que vous êtes également des personnes artistiques, des êtres faits pour le beau. Donc, disposez agréablement les légumes et la viande dans un plat, mettez la table de manière ordonnée, et alors, le repas sera bien plus rassasiant. Il faut s'investir à fond dans ce que l'on fait et éviter d'accomplir des actes qui vont à l'encontre d'une partie de notre être, comme par exemple de notre conscience. Car le bonheur est plaigné où il n'est pas. D'ailleurs, ce qui fait la joie des saints, c'est qu'ils sont entiers. Vous ne verrez jamais un saint renier son âme, renier son corps, renier une idée qu'il porte ou renier un ami, sous prétexte d'acquérir quelques plaisirs ou avantages. Non, quand ils agissent, c'est tout leur être qui est de la partie. Ils ne laissent pas sur la route de leur vie des petits bouts d'eux-mêmes, car ils veulent arriver entiers au ciel, et non à moitié amputés. Aussi, mes frères, évitons tout ce qui divise notre personne, et en particulier, détournons-nous des choses où seul le plan matériel est recherché. J'insiste sur ce point, car c'est un mécanisme qui arrive plus vite qu'on ne le pense. Marie-Madeleine Davy, historienne et philosophe du siècle dernier, le décrit très bien. « Le corps cherche à monopoliser l'attention », observe-t-elle. « Son désir vise à établir sa souveraineté et à réduire en esclavage le cavalier dont il est la monture. Toutefois, il réagit suivant l'attitude qu'on prend envers lui. Gâté tel un gamin capricieux, il se voudra monarque, mais traité avec gentillesse et humour, il puisera constamment en lui-même des énergies nouvelles. Mais la tentation est grande pour certains individus de se consacrer uniquement au culte du corps en obéissant à ses exigences. Aussi, prévient-elle, celui qui n'éprouve pas le goût de la culture, de l'écriture, des livres, de l'art en général, va saisir la seule évasion qui s'offre à lui, le souci et le soin exclusif de son corps. Tel est le suprême danger pour l'être humain. Alors, mes frères, ne tombons pas dans ce piège que nous tend notre corps. Ne mettons pas toutes nos billes dans son sac, sous prétexte que c'est la seule chose de notre être que nous voyons. Surtout en notre temps, où la beauté et la santé ont pris une telle place qu'ils sont devenus pour beaucoup d'entre nous la principale raison de vivre. Si nous allons dans ce sens, nous ne goûterons qu'à un type de joie, la joie corporelle, ce qui limiterait grandement notre bonheur. Au contraire, occupons-nous également de notre âme, de notre intelligence, de notre volonté, de notre mémoire, de notre psychologie, de notre caractère et surtout de notre capacité d'aimer. Investissons toutes les facettes de notre personne humaine, et alors notre joie sera composée de myriades de saveurs différentes. Amen.